Bonjour, vous écoutez Covoiturage, le podcast qui taille la route. Chaque épisode vous propose une rencontre au fil des kilomètres, avec un invité, pour apprendre à connaître son métier et son quotidien de bitume. Aujourd'hui, c'est avec un dessinateur de BD que j'embarque. Il s'appelle Thierry Dubois. Il adore les voitures anciennes et la route. Il est spécialiste de la Nationale 7, à qui il a consacré de nombreux albums. Et c'est donc sur cette Nationale que nous allons rouler ensemble aujourd'hui, entre Vienne et Valence. Et c'est véritablement un voyage dans le temps que nous allons nous offrir. Décollage immédiat, bienvenue à vous.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7.
Je vais commencer par vous raconter la genèse de ce covoiturage. Thierry Dubois, je le suis sur Facebook et quelques jours avant notre rencontre, j'ai découvert qu'il partait pour ce qu'il appelait un National 7 BD Tour, une sorte de road trip qu'il avait imaginé pendant une semaine entre Paris et Antibes, ponctué de rencontres et de dédicaces dans des librairies. Je me suis aussitôt dit que c'était l'occasion idéale de partir avec lui en covoiturage. Je l'ai donc contacté et l'affaire a été vite conclue. Nous sommes ce jour-là un vendredi matin du mois de mai, il est presque 9h, je suis à Reventin-Vaugré, près de Vienne, dans l'Isère. C'est là que Thierry Dubois m'a donné rendez-vous, sur le parking du Relais 500, un motel situé sur le bord de la Nationale 7. J'aperçois au loin une magnifique voiture de collection, et à côté, c'est mon covoitureur du jour. Bonjour Thierry Dubois.
Bonjour Francine.
Bon, je suis ravie de vous retrouver. Donc ici, est-ce que vous pouvez me dire quelle est cette voiture là ?
Alors c'est un coupé Ford 1949, une voiture américaine avec un moteur V8. Un truc qui était monstrueux à l'époque parce que ça faisait 100 chevaux sur la route. Et c'est vrai que là, pour faire la Nationale 7 et aller sur la Côte d'Azur, c'est le rêve.
Et c'était une voiture très populaire ? On en croisait beaucoup ?
Non, celle-là, elle était quand même assez rare sur nos routes parce qu'elle venait des États-Unis, que les gens n'avaient pas les moyens. Mais c'était quand même la reine de la route pour quelques, je dirais, industriels un peu aisés, quoi.
Bon, donc on va embarquer dedans.
Ah ben, avec plaisir, oui.
Super. Bon, on est installé. Je cherche pas la ceinture de sécurité, si j'ai bien compris.
Ah non, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Mais on sera prudent.
Oui. J'ai confiance.
Moi, je démarre.
Waouh.
Alors c'est un moteur V8 à soupape latérale, hein. il est surdimensionné, hein. C'est la philosophie des voitures américaines, on fait des gros moteurs qui tournent pas vite parce que du coup c'est fiable et ça roule très bien, quoi. C'est un moteur de bateau un peu, puis vu la taille de l'engin, on se prend un peu dans une péniche qui manœuvre dans un port.
Alors c'est ultra confortable en tout cas.
Ah oui, on est bien là. Faut se resituer en 1949, quoi. Là on sortait à peine de la guerre et le pays était assez exempt.
Donc là, c'était quand même, oui, la voiture de ceux qui avaient les moyens un petit peu.
Oui, c'est une voiture qu'il fallait payer en dollars à l'époque.
Ah oui, donc alors, tout le monde ne pouvait pas.
Français, il y avait quelques commerçants qui s'étaient bien enrichis dans les années qui sortaient, là, et puis des industriels, c'était ça.
Bon, ben, voilà, je suis installée depuis à peine 2 minutes dans cette Ford T et je suis déjà sous le charme. Imaginez-vous une banquette velours vert bouteille, très moelleuse. Un tableau de bord garni de boutons chromés. Un levier de vitesse au volant avec à son extrémité une belle boule chromée elle aussi. Et l'impression immédiate de m'être télétransporté dans une autre époque. La magie est instantanée. Et je n'ai plus qu'à me laisser bercer par la conversation de Thierry.
Il y avait un côté entre le vaisseau spatial et l'avion, quoi. C'est ça.
Tout.
Je veux dire, on est au début des 30 Glorieuses, les gens sortent de la guerre, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de rouler, c'est l'Amérique conquérante à l'époque. Et même la calandre de la voiture, c'est ce qu'on appelle un bullet nose, hein, comme une balle de fusil. En fait, c'est comme l'entrée d'une tuyère de réacteur, parce que voilà, les avions à réaction, ça venait d'arriver, ça faisait aussi rêver les gens.
Donc pourquoi vous avez choisi pour ce National 7 BD Tour, cette voiture-là?
Mais en fait, elle est bien reconnaissable, quoi. comme on est appelé à rencontrer pas mal d'autres collectionneurs, les gens ils vont l'identifier tout de suite parce qu'ils la connaissent par les réseaux sociaux ou des photos. Et puis bon, bah c'est, on va sur la Côte d'Azur. En général, voilà, c'est le voyage type de cette époque-là, de Paris vers la Côte d'Azur, d'arriver dans des palaces ou des endroits comme ça. Et donc avec ce genre de voiture, c'est parfait. Mais bon, c'est vrai qu'il m'arrive de le faire avec des voitures plus modestes. Hein.
Oui, parce que je crois que vous en avez beaucoup, des voitures anciennes.
Pas beaucoup, j'en ai quelques-unes, mais en fait, j'aime bien les voitures qu'on voit sur la route, qu'on voyait sur la route. J'ai pas spécialement les voitures exceptionnelles. Je préfère les deux chevaux, les quatre chevaux, les 404, celles avec lesquelles on prenait la Nationale 7 à l'époque. Quoi.
Thierry, on vient d'embarquer ensemble, mais on ne s'est pas dit si on se tutoyait ou si on se vouvoyait.
On peut se tutoyer, il n'y a pas de
ouais,
problème.
Bon, oh, ce oui, sera plus convivial.
C'est plus simple, oui.
Bon, alors Thierry, donc, cette idée de National 7 BD Tour, là on est vendredi matin, tu es parti en début de semaine, c'est quoi le programme?
Alors bon, moi la National 7, je la fais, enfin, quand on peut circuler, je la faisais 6, 7, 8 fois par an,
ah
parce
ouais.
que j'aime bien. En plus, j'ai un point de chute à Grasse. Et donc, dans mes idées, je me dis, ce serait sympa, quand je descends la National 7 avec une ancienne, de m'arrêter chez des libraires et puis de faire des dédicaces, quoi, de rencontrer des gens. Et puis là, au moment où on a dit, ça y est, on va pouvoir rouler, c'est le déconfinement, je me dis, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion d'aller remercier les libraires qui ont quand même pas mal travaillé pour nous pendant cette période et d'aller faire des dédicaces au long de la route. Et puis, j'en ai parlé à mon éditeur qui a trouvé l'idée super. Et donc, on a choisi des étapes où il y avait des libraires qui étaient plutôt demandeurs. Et donc, on roule le matin. J'ai prévu des points de chute, des endroits où on va rencontrer d'autres voitures anciennes, des collectionneurs et tout. Et puis, l'après-midi, on s'arrête dans une ville et on dédicace dans un magasin, une librairie BD.
Et il y a quand même d'autres voitures là qui nous suivent.
Oui, quelques-unes qui étaient là au départ. Et puis, d'ici 25 km, il y a un autre arrêt prévu où il y en a d'autres qui nous attendront.
Donc là, on y est sur la Nationale 7, hein ?
Oui, alors on est dans la vallée du Rhône. On a passé les 500 km là à Vienne, qui sont assez symboliques parce que ça veut dire que on a dépassé Lyon, on a dépassé la moitié du voyage. Et Lyon, c'était quand même une ville qui était pénible à traverser. Donc le but des voyageurs dans les années 50, c'était au moins le premier jour de dépasser Lyon.
Un Paris-Menton, mettons, dans les années 50, c'était combien de temps un jour de gros départ en vacances ?
C'était 2 jours. Alors Paris-Menton, c'est vraiment la route jusqu'au bout, parce qu'on peut considérer qu'une fois qu'on est arrivé à Aix-en-Provence, les gens commençaient à partir vers les plages un peu partout. Alors il y avait toujours des jeunes qui s'amusaient à faire la course, qui faisaient ça la nuit, hein, parce que la nuit c'est assez fou avec des Triumphs, des MG, ces voitures-là. Les types roulaient à 120-130 sans s'arrêter, en traversant tous les villages et tout, donc là ils arrivaient à le faire dans la nuit. Mais les voyageurs au moment des vacances, alors il y avait deux choses, d'une part il y avait beaucoup de monde en même temps, donc on comptait 2 jours avec un arrêt, si possible, après Lyon. Donc c'est pour ça que, du coup, on a beaucoup d'hôtels à Vienne, Valence, pour accueillir tous ces gens. Surtout que quand vous arriviez à Valence le premier jour, vous saviez qu'au moins l'après-midi, vous seriez arrivé à destination et qu'on pourrait peut-être se baigner.
Tu es un spécialiste hein, de la Nationale 7, de son histoire. Ça a commencé quand, cette histoire de grand départ en vacances, les gros trafics, ils apparaissent quand?
Bon alors, il y a toujours, il y a cette histoire, les congés payés sont créés en 1936. Mais bon, les congés payés, ça concerne des gens très modestes, des ouvriers qui n'ont pas du tout de voiture à l'époque. Donc, les congés payés de 1936, les gens partent par le train ou à vélo, il n'y a pas de voiture. C'est seulement après la guerre qu'on commence à apparaître des petites voitures populaires, hein, comme la 4 chevaux, la 2 chevaux, que là, les gens commencent à partir en vacances en voiture et qu'on s'aperçoit du retard énorme qu'on a au niveau communication. Et du coup, on lance un projet d'autoroute mais qui mettra beaucoup de temps à se concrétiser. Hein. Les travaux commencent en 55 et l'autoroute sera achevée en 70. Et donc tous ces énormes bouchons sur la Nationale 7, ils sont la conséquence de ce retard pris au début, parce qu'on considérait au début qu'il suffisait d'aménager la route, qu'on n'avait pas besoin d'autoroute. Et rapidement, quand tout le monde aura une voiture, là, on se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose. Et du coup, ben voilà, c'est la naissance des premiers bouchons sur la Nationale 7.
Bah là, en parlant de bouchons, on est à l'arrêt, il y a une intervention justement.
Ouais, c'est des travaux.
Hey,
Alors en plus, là, bon, c'est pas gênant, mais faut voir que les voitures à l'époque, elles étaient quand même beaucoup moins fiables, elles chauffaient, tout ça. Donc on avait une concentration de garages le long de la route. Le moindre village, il y avait deux ou trois garages et deux postes à essence.
Ouais, toi, tu en parles beaucoup dans tes albums chroniques de la Nationale 7. Effectivement, les garages, c'était primordial parce que...
Ah oui, c'est... Oui, oui, et puis les voitures étaient plus simples, donc il n'y avait pas... Aujourd'hui, il faut des techniciens ou des appareils très élaborés pour réparer les voitures. À l'époque, un brave mécanicien, il réparait à peu près toutes les autos. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les voitures sont toutes climatisées. Elles sont très fermées par rapport à l'extérieur.
Ouais.
À l'époque, il faisait très chaud, mais les voitures étaient beaucoup plus conçues pour être ventilées. Et l'avantage, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Les gens se parlaient beaucoup plus. Et puis, on a toute cette évolution des senteurs tout au long de la route.
C'est vrai. Surtout, voilà, dans la route Paris, le midi, c'est
voilà,
très...
Voilà, et plus on va vers le midi, plus les senteurs du midi arrivent. Et c'est vrai que de rouler la fenêtre ouverte, c'est autre chose que d'être enfermé dans sa voiture avec la clim.
C'est vrai.
Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France.
Une fois de plus, je ne peux que souscrire aux propos de Thierry. Sur cette Nationale 7, souvent bordée de platanes et qui traverse de jolis centres-villes, la route est très agréable. À 80 km/h, on n'a pas envie d'aller plus vite. Le seul besoin que l'on ressent, c'est de profiter, de respirer, d'ouvrir de grands yeux pour ne rien rater du paysage et de grandes oreilles pour s'abreuver des anecdotes de mon conducteur. Allez, on continue la route ensemble.
Alors là, on arrive justement au péage de Roussillon, où il y a cette grande descente qui était quand même très dangereuse. Il y a eu quelques accidents, surtout avec des camions, c'est pour ça qu'elle est interdite aux poids lourds maintenant, parce qu'en plus, cette descente, elle débouche pile dans la ville.
D'accord.
Alors à l'époque, c'était, ça faisait partie des points dangereux de la Nationale 7.
Et donc tout au long de la Nationale 7, beaucoup plus que maintenant, il y avait donc les garages, les stations-service, les restaurants, les restoroutes.
Oui, alors enfin les restoroutes, ça a été justement cette forme de restaurant américaine, mais il y a deux types de restaurants qui caractéristiques.
Enfin, les relais routiers, plutôt, ouais.
Les relais routiers, parce que ben, pour nourrir les chauffeurs de poids lourds, parce qu'on parle toujours de la Nationale 7 et des bouchons. Mais la Nationale 7, toute l'année, c'était les camions qui amenaient les primeurs, les fruits, le vin à Paris, aux Halles. Donc ça vivait toute l'année. Et donc,
de jour comme de nuit.
Tout le temps. Là, justement, ce qui est assez marrant, on va traverser le péage de Roussillon. Et il y a un garage assez caractéristique un peu plus loin.
D'accord.
Et donc, je disais, il y avait les routiers. Et puis, beaucoup de restaurants luxueux, justement.
D'accord.
Puisque il y avait toutes ces vedettes, tous ces gens qui descendaient sur la Côte d'Azur en voiture. Bah, le voyage, c'était quand même un plaisir. Et parmi les plaisirs, il y avait celui de la table. Et c'est pour ça qu'on retrouve autant de grandes tables et de restaurants étoilés le long de la route Paris-Côte d'Azur.
Hein,
que ce soit la Côte d'Or à Saulieu, la Meloise, la Pyramide à Vienne, Pic à Valence.
D'accord.
Tout ça, c'est Roanne.
Ah bah oui, Roanne, c'est chez moi, ça, donc voilà. Je peux en parler.
Bon, maintenant, il n'est plus vraiment sur la 7, mais
non.
Ça, c'était aussi parce que les gens prenaient la route que ces restaurants étaient là. Hit the road, Jack. Don't you come back.
Rapide aparté, à force d'emprunter la Nationale 7, Thierry connaît très bien ses restaurants et nous ferons d'ailleurs tout à l'heure une petite pause chez l'un d'eux, la Maison Chabran à Pont de l'Isère, mais ça, ce sera dans l'épisode 2.
Alors ici, on va passer devant un garage caractéristique de cette architecture, je dirais... inspiré des États-Unis,
ouais, un peu futuriste quoi.
Voilà, avec le Mondial Garage, qui est un garage qui a été construit avant-guerre, on va le voir, qui est vraiment représentatif.
Il s'appelait comme ça à l'époque, le Mondial Garage.
Et c'était un garage Ford d'ailleurs.
Ah.
Mais ce qui est marrant, on va le voir, c'est qu'il y a un espèce de fronton, il y a toujours un totem, quelque chose, à la façon, je dirais, d'un phare qui guide les bateaux vers lui, quoi. Et donc les garages avaient ce côté, toujours un totem pour faire comme un phare qui attire les gens, quoi.
Ah, c'est là où il y a les enseignes.
Voilà,
là.
Il est à gauche là.
D'accord.
Il est superbe. Et justement, le propriétaire à une époque voulait le recouvrir. J'ai dit non, il faut le laisser comme il est, quoi.
Ah bah oui.
C'est superbe.
Ah oui, c'est merveilleux.
Là, alors, on vient de traverser le péage de Roussillon. La rue était étroite. Mais il faut se dire qu'à l'époque, c'était dans les deux sens, la circulation, avec les poids lourds qui traversaient.
Oh là là.
Donc, tout de suite, il fallait un quart d'heure, une demi-heure pour traverser juste ce petit bourg.
Et pour les riverains, c'était l'horreur.
Oui, oui, ça, c'est les riverains, c'était les camions toute la nuit, le bruit. Les maisons sur le bord des routes n'étaient jamais très chères.
Ça attire la sympathie de circuler dans ce genre de voiture. Je voyais là en passant dans le centre-ville, les gens sourient aussitôt quand ils voient ces voitures.
C'est ça qui est sympa, quoi. Plus, c'est pas un luxe ostentatoire. C'est une envie des gens en disant ah oui, c'est vrai que ça doit être sympa de se balader dans cette voiture. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Parce que parfois on peut se demander pourquoi est-ce qu'on préfère rouler dans une vieille voiture plutôt qu'une voiture moderne avec la clim, la radio, etc. Je me pose souvent la question. Il y a une façon un peu de remonter le temps quand on roule dans une vieille voiture.
Ouais, je trouve.
On prend une vieille route dans une vieille voiture, on se retrouve 50, 60 ans en arrière.
C'est vrai que je trouve que ça marche instantanément. Il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire dès qu'on s'assoit. En fait, les adultes qui voient passer les convois ont les mêmes yeux que les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc de l'émerveillement.
C'est ce qu'on dit souvent, hein, la différence entre l'adulte et l'enfant, c'est le prix des jouets.
Voilà. On était, mettons, dans les années 50-60, la route était très accidentogène. Aujourd'hui, on a nos 4000 morts, la barre des 4000 morts sur la route par an, en dessous de laquelle on n'arrive pas à passer.
Alors aujourd'hui, il est évident que l'accident révolte. Les choses étaient assez différentes, je dirais, dans les années 50, pour deux raisons. D'une part, on sortait de la guerre et le réseau avait beaucoup souffert pendant la guerre, n'avait pas été entretenu. On avait plus de 10 000 ponts en France qui avaient été démolis, qu'il avait fallu reconstruire. Donc les priorités étaient plus à la reconstruction. Et si l'état des routes était mauvais, c'était une sorte de fatalité. Donc on pouvait s'en prendre à personne. Et la deuxième raison, c'est que toutes ces générations de l'époque avaient connu les deux guerres mondiales pour la plupart.
Donc un rapport à la mort différent.
Voilà, était tout à fait différent. Et donc l'accident était vraiment vécu comme une fatalité, alors qu'aujourd'hui, on est plus une révolte.
D'accord. Bon, là, on est vraiment bien, il fait beau, on est confortable. Quand est-ce qu'est apparue l'agressivité au volant? Parce que là, je me dis qu'au volant d'une voiture comme ça, on peut pas être agressif. Mais bon, c'est sans doute une vue de l'esprit à cause du contexte d'aujourd'hui.
Il y a toujours eu. Vous savez, les premiers automobilistes, quand ils arrivaient dans un village, les gens les chassaient à coups de fourche parce que ça faisait 2000 ans qu'on pouvait traverser le village sans regarder la route. Et puis d'un coup, surgissaient des types qui, à 30-40 km/h, on les avait pas entendus arriver et vous roulez dessus. Donc ça a commencé comme ça. Et puis il y a toujours eu des gens qui avaient des voitures plus grosses que les autres, qui considéraient qu'ils pouvaient passer devant. Même dans les récits dans les années 20 ou 30, les gens faisaient le coup de poing déjà sur le bord des routes.
D'accord. Hein.
Donc niveau agressivité, chaque époque a son lot.
Alors tu parles de la route dans les années 20, dans les années 30, que tu n'as pas fréquenté, ou alors tu caches bien ton âge?
Ah non.
Comment tu connais si bien tout ça?
Mais déjà, j'adore les récits de voyage. Des gens comme Paul Morand, tout ça, ont écrit à l'époque. Parce que c'est très amusant, la route dans les années 20, parce qu'il y a peu de gens qui roulent. Et en fait, il y a soit des camions, soit des gens très riches.
Donc, c'est des lectures, t'as compulsé des archives
Alors, j'adore les photos d'époque, déjà. Donc, je suis toujours à la chasse de photos d'époque, parce qu'il n'y a rien de mieux pour illustrer ce qu'on raconte qu'une photo d'époque. Et puis les récits de voyage, même simplement les textes de cartes postales au dos. Toutes les destinations de la National 7, toutes les cartes envoyées le long de la National 7, elles racontent « on a eu de la chance, la voiture a tenu »,« crevaison hier, on a perdu du temps »,« on a un joint de culasse qui a claqué, mais le garagiste est sympathique, il nous fait ça dans la journée », ça n'arrête pas, donc c'était quand même particulier.
Ah ben on se racontait beaucoup ça par carte postale.
Oui,
ah
ouais. Déjà il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Donc dès qu'il y avait une péripétie, on envoyait une carte en disant on sera en retard.
Petite parenthèse, on est passé devant un Courtepaille. Ça, c'est ce genre de restaurant comme ça, des enseignes grand public, ça apparaît quand sur
Alors,
le bord des routes?
Le premier resto-route, il est ouvert à Rouvray, entre Paris et Lyon, puis à égale distance, en 1954. où là on veut faire un resto à l'américaine où les gens s'arrêtent. En plus, il y a un garage à côté, donc vous pouvez faire le plein ou graisser votre voiture pendant que vous mangez un hamburger ou une omelette. Il y en a pour une heure d'arrêt.
Et donc, c'est partez. Le chic du chic de faire ça.
Oui, ça dans les années 50. Regardez, là, on arrive ici et il y a une publicité pour Duvivier qui était le concessionnaire Chevrolet de l'époque.
Ah, génial, oui.
Alors, ce qui est marrant, c'est que cette publicité, elle avait été recouverte par un crépi, et le crépi est tombé, et elle est réapparue, quoi.
Ah.
Parce que la route, c'était ces publicités qui avaient tout au long du chemin, et qui, à l'époque, aujourd'hui, on leur trouve un côté suranné, sympathique, rétro, mais à l'époque, c'était, tout le monde disait, c'est la lèpre des routes, il y en a partout. Il y en avait même sur le toit des maisons, des choses comme ça.
Ah oui ?
Ah oui, c'était, il y en avait partout, c'était le moindre pan de maison. Disons qu'un paysan qui avait un hangar, on lui disait, écoutez monsieur, plutôt que d'entretenir votre mur, nous on le fait et on met une pub dessus. Donc c'était gagnant-gagnant. Et donc c'est pour ça qu'il y a des articles dans les années 30 où on demande un appel pour faire cesser ces publicités. La première loi...
C'était une 4L.
C'est ça. La première loi pour c'est 1941 où on réduit la taille des pubs à 16 mètres carrés.
Ah c'est vrai, et depuis 1941, d'accord.
On interdit dans le périmètre des bâtiments classés.
Ah oui, donc c'est un débat qui existe encore aujourd'hui mais qui date alors.
Ah oui. Et puis justement, les pubs étaient peintes sur les murs, des choses comme ça. Et les dernières datent de 1971 parce qu'après, il fallait un panneau amovible.
D'accord.
Pour qu'elle ne soit pas, qu'elle reste pas. D'accord. Si on arrêtait. Et donc, c'est le début des 4x3 hein, qui ont D'accord. commencé à envahir les routes. Et c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, ils sont souvent démontés pour des questions d'environnement. Et derrière, on retrouve des vieilles pubs qui réapparaissent.
Quand je vous disais que Thierry est incollable sur la Nationale 7 et son histoire, je pense que vous en avez eu maintenant la démonstration. Et je vous invite bien sûr à vous plonger dans la lecture de ces chroniques de la Nationale 7, aussi drôles que passionnantes. C'est une exploration de notre histoire récente qui nous permet notamment de remonter le fil de la route de nos vacances. Tiens, les vacances, revenons-y justement. There's a man in New Orleans who plays rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a guitar and a cola. He goes by the name of King Creole. You know it goes. Mais alors une voiture comme ça, quand on partait en vacances, donc à l'époque, effectivement, sans ceinture de sécurité, ça veut dire que les enfants dormaient à l'arrière, couchés
Oui, moi, c'est... on était trois enfants, nous, mon père avait des DS. Il y en a un qui dormait sur la banquette, un sur la plage arrière et un parfois par terre.
Ouais, c'est ça.
Et puis si on se bagarrait, ma mère en prenait un sur les genoux. Les souvenirs que j'ai qui sont assez amusants, quand on était petit, on arrivait de nuit. Quand on traversait une ville, à l'époque, les villes étaient pavées. Donc d'un coup, ça tremblait dans la voiture. On se disait, tiens. Et puis quand on voyait de la lumière qui défilait par la fenêtre, ça voulait dire qu'on arrivait à la maison. Mais alors, c'est vrai que j'ai pris la N7 quand j'étais petit. Je n'étais pas vraiment sensible à cet environnement. Hein. Comme tous les enfants, on trouvait que c'était long, qu'il faisait chaud.
C'est pas une passion qui date de l'enfance.
Non. Mais j'avais quand même mon père qui était ingénieur centralien et assez sensible à tout ce qui était travaux routiers et tout. Donc il nous a emmenés, on faisait un petit crochet sur la route pour aller voir un nouveau viaduc,
quelque chose.
Donc je pense que ça a posé quand même...
Ça marque.
Oui, ça marque.
Et bordé par des champs de coquelicots, c'est assez joli.
Ah ben là, on avait quand même beaucoup de primeurs. On va voir des pêchers, de tout ça, parce que il fallait nourrir la capitale. Hein.
Donc d'où les camions qui remontaient.
Donc ils chargeaient le soir, beaucoup. Ils prenaient la route et ils arrivaient le lendemain soir au Halles.
Et il fallait arriver le premier pour que les cours soient intéressants.
C'est ça.
Alors, on s'arrête beaucoup boire des coups aussi dans les chroniques de la Nationale 7. Et donc ça, j'imagine que c'était le cas à l'époque. C'est pareil, la notion d'alcool au volant, elle a quand même bien évolué. Hein.
Ah oui, ça, presque en cas d'accident, c'était une circonstance atténuante. Il a eu un accident, c'est normal, il était bourré. Mais c'est vrai, hein, faut voir ce qu'un routier pouvait s'envoyer. Puis il n'y avait pas du tout les mêmes systèmes de contrôle qu'aujourd'hui. Ouais. Hein, donc les types, ils roulaient 15-16 heures par jour. Et puis il y avait, dans tous les routiers un peu discrets, il y avait la dynamite qui était... Quand un type était vraiment crevé, qu'il ne pouvait pas aller plus loin, le patron avait toujours une spécialité à base de café, de cognac, tout ça mélangé.
Et même de moutarde.
Il prenait ça et ça lui redonnait un coup de fouet qui lui permet de reprendre la route.
Ça doit réveiller, ouais.
Alors là, on approche d'une première étape. Qu'est-ce qui va se passer?
Ben, j'ai donné rendez-vous sur Facebook à quelques collectionneurs. Là, c'est un endroit où on peut s'arrêter facilement pour venir à leur rencontre s'ils veulent faire un petit bout de route avec nous.
Donc là, c'est la surprise, en fait.
Oui, oui. On est au bord du Rhône, entre Saint-Vallier et Serves-sur-Rhône. Je vois déjà un beau petit scooter.
Ouais, c'est ça, n'est-ce pas?
C'est un bon copain, hein, je pense, c'est Laurent.
Eh oui, quelques voitures.
Eh oui, il y en a. Une Hotchkiss et un cabriolet 504.
Ah, et tu reconnais tout de suite.
Messieurs, dames, bonjour.
Et voilà une première pause. Mais avec Thierry, inutile de lui rappeler qu'elle s'impose toutes les deux heures. Lui marque des arrêts beaucoup plus souvent, au gré des rencontres, des copains et des surprises de la route. Et je dois dire que je me régale à l'écouter et à partager ce moment avec lui. Je vous invite donc à poursuivre le voyage avec nous. Ce sera l'occasion de parler avec Thierry de son métier de dessinateur et de son goût prononcé pour les escales gourmandes. Il nous fera d'ailleurs rencontrer une figure de la Nationale 7. Rendez-vous dans la deuxième partie de ce covoiturage.